Bonjour à tous, bienvenue dans l'économie en VO, notre débat économique sur la web TV, la bourse et la vie.com. Nos trois invités dans ce magazine pour la partie marché, David Pastel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Pastel et Associés. Nous verrons avec vous après ce début d'année qui semble plus positif si on doit se réinvestir peut-être en bourse sur les actions notamment, qui font toujours peur. On a vu que ça allait bien sur l'or, pas forcément sur les actions. On verra donc ça un petit peu de près avec vous. Puis deux invités côté dirigeant d'entreprise. Marc Diwan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'exécutif vice-président de la société PTC. Vous êtes le français de cette société américaine, PTC, qui est un peu l'équivalent de notre Dassault Systèmes. Donc, on verra ce qui se passe dans votre secteur. Et puis, Edouard Fourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de SAS Institute. Mm-hmm. Et vous occupez de la, on pourrait dire, de business intelligence, de tout ce qui est analytics, analyse pour les entreprises. Et on verra avec vous comment se développe également ce marché. Si vous voulez bien, on va commencer par la bourse, comme c'est tradition dans ce magazine. David Pastel, on a l'impression, en ce début 2012, qu'on se retrouve un peu dans l'ambiance de début 2011, c'est-à-dire que les investisseurs ont envie de prendre les choses comme elles viennent et plutôt positivement.
C'est vrai. Enfin, il faut dire que l'année 2012 a commencé de manière un peu particulière, puisque la France a perdu son triple A. Et je voudrais quand même revenir un peu là-dessus, parce que il n'y avait rien dans cette annonce que nous savions déjà. Il suffisait de regarder les comptes de la nation, la croissance du déficit budgétaire, l'endettement public, les taux de croissance, le chômage, les déficits commerciaux. La combinaison de tous ces facteurs aujourd'hui négatifs laissait bien penser que la France ne méritait probablement plus complètement son triple A. Cela étant, je crois qu'il faut se méfier d'une notation à trois lettres qui est censée représenter la complexité d'une économie, d'un État. Et à cet égard, il est bon de se souvenir d'un certain nombre de choses qui se sont passées, qui permettent de relativiser ce qui se passe en ce moment. D'abord, la France a obtenu sa notation AAA en 1975. C'est à partir de 1975 que l'endettement public français commence à croître de manière irrémédiable, jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression finalement que l'obtention du triple A a été, pour la France, une licence à s'endetter de plus en plus. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on peut se dire que c'était aussi le cas aux États-Unis. En revanche, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres États, la perte du triple A a souvent été le moment d'une reprise en main, d'une remise en question et d'un redémarrage de l'économie. Si on regarde au Canada ce qui s'est passé quand le Canada a perdu son triple A en 89 ou en Finlande en 92, la Finlande qui aujourd'hui donne des leçons, mais qui a perdu son triple A en 92, ou la Suède, eh bien ces pays aujourd'hui sont tous triple A et sont des exemples de vertu. Mais ce sont des exemples de vertu parce qu'ils sont passés par la phase du double A.
Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, cette perte-là donc amènera forcément à des changements en France
À des changements en France et ailleurs, aux États-Unis certainement aussi. C'est d'abord par les États-Unis que les choses doivent se rentrer dans l'ordre, si je puis dire, dans un nouvel ordre probablement économique mondial. Mais c'est par les États-Unis que ça va commencer. Et moi, je pense qu'il faut regarder les choses en face avant de les changer et de repartir sur de bonnes bases. Et donc finalement, cette perte de triple A, que ce soit pour les États-Unis ou pour la France, est une bonne chose. Il faut être lucide, il faut repartir de l'avant. Et c'est ce que les politiques commencent à faire, mais c'est un travail de longue haleine, ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas se leurrer. On ne sort pas de l'ornière dans laquelle nous sommes jetés ces 10-15 dernières années par un surendettement, une surconsommation excessive, de manière aussi rapide que certains espèrent.
Si alors on pourrait dire aussi que les agences d'investissement ont pris leur temps, mais bon, on le sait dans d'autres domaines, notamment sur aux États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis. En ce début d'année, sur notre environnement, on a vu quand même ce qui s'est passé sur les actifs. L'or qui reste quand même à des niveaux assez élevés, qui a fait, quand on regarde la courbe de l'or et la courbe des actions, c'est vrai que beaucoup d'investisseurs s'interrogent en se disant finalement j'aurais peut-être dû en prendre. Alors aujourd'hui c'est un peu tard, mais à l'époque.
Il y a beaucoup de choses à dire effectivement.
Les actifs, les taux, ce qui se passe sur la partie obligataire. Est-ce que ça n'a pas été remis en cause par cette crise financière finalement, cette valorisation des actifs?
Alors moi je dirais que la stagnation et même la dépréciation de la classe action en tant qu'investissement, elle ne date pas de la crise financière. C'est quelque chose qui a commencé à la fin des années 90. Et puis, si on regarde, si vous voulez, de 1998 à aujourd'hui, on ne gagne rien ou quasiment rien en bourse. Mais c'est assez fallacieux de dire ça, parce qu'en vérité, on ne gagne rien si on investit dans les indices. Il y a eu, comme vous me le disiez tout à l'heure, il y a heureusement de très belles entreprises françaises et étrangères qui ont pris des parts de marché, sont devenues de plus en plus profitables sur les 15 dernières années et dont la valorisation boursière s'est considérablement accrue. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, et l'investissement en actions en tant que tel n'est pas nécessairement, sur les 15 dernières années, n'a pas nécessairement été un investissement perdant. En témoigne, si je puis me permettre, la performance de notre fonds valeur intrinsèque, par exemple, et d'autres fonds gérés par certains de nos confrères. Alors, en revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de cette stagnation des marchés actions, il y a eu l'explosion du marché des matières premières, et en particulier de l'or. Mais on peut se demander dans quelle mesure, après un quintuplement du prix de l'or sur les 10 dernières années, dans quelle mesure l'or aujourd'hui est un moyen de se protéger contre une érosion du pouvoir d'achat. Enfin, en ce qui me concerne, je déconseille à qui que ce soit d'investir dans l'or aujourd'hui.
Et on pourrait dire à contrario que sur les actions, quand on gagne une telle période négative sur les actions,
j'emploie toujours la phrase de Warren Buffett: be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. C'est quand les marchés actions, c'est quand personne n'en veut, qu'il faut aller voir s'il y a des choses à faire. Hein, c'est comme les soldes, si vous voulez. On va acheter quand les prix sont bas. On ne va pas acheter quand tout le monde veut acheter et que c'est très cher.
Je voudrais revenir sur l'économie réelle, en revanche, puisque
vous me posiez la question, que se passe-t-il finalement ce début d'année? Alors c'est ça le contraste, si vous voulez. Il y a un véritable contraste entre la sphère financière, qui est en pleine crise, en pleine remise en question, et à côté de ça, l'économie réelle, constituée d'entreprises, en France et à l'étranger, d'entreprises qui ont des vrais projets, qui se développent, pour certaines d'entre elles qui sont très profitables, et qu'on peut aujourd'hui acheter en bourse dans d'excellentes conditions pour celui qui sait investir à l'aune de ce qu'est la vie d'une entreprise, c'est-à-dire 5 à 10 ans. On n'investit pas en bourse si on ne peut pas rester plus de 5 ans.
Alors effectivement, c'est intéressant sur cette partie-là. Marc Dioen, comment vous avez vécu cette période-là, ces derniers mois, on va dire, de crise financière? Vous, dans un des portraits que vous étiez consacré dans le journal Les Échos, vous étiez qualifié en quelque sorte de grand voyageur. Quand vous parcourez le monde, vous voyez vraiment la zone euro, là, où, quand vous arrivez dans la zone euro, quand vous arrivez à Paris, vous avez peur?
Alors effectivement, je passe pas mal de temps dans les avions, je voyage un peu sur les trois continents depuis maintenant une quinzaine d'années, et je passe beaucoup de temps aux États-Unis. C'est vrai que le regard plutôt des États-Unis sur l'Europe, aujourd'hui les États-Unis ont tendance à un peu expliquer l'ensemble du mot, quelque part, des mots que nous connaissons aujourd'hui au niveau de l'économie, du principal endettement de l'Europe, même si les États-Unis connaissent un endettement bien supérieur à celui de la France. Et donc les projections économiques au niveau des États-Unis sont très dépendant quelque part de l'amélioration, de la non-amélioration quelque part de la situation de l'endettement des États européens. Lorsque j'arrive en Europe, je sens plutôt une situation un peu crispée. Et c'est vrai que pour des dirigeants d'entreprise, nous sommes dans une situation relativement exceptionnelle pour pouvoir aujourd'hui mettre en place des stratégies plutôt court terme. Parce que sur le long terme, je rappelle simplement que nos sociétés travaillent dans un domaine d'activité qui est très lié à l'innovation. Et c'est vrai que l'innovation, c'est plutôt long terme. Mais en revanche, pour 2012, nous avons mis en place des business plans avec différentes hypothèses, en ne sachant pas aujourd'hui quelle sera l'hypothèse qui va se réaliser. Revenir un petit peu à ce que vous avez dit précédemment sur l'économie réelle. L'économie réelle ne ressent pas en vérité les problèmes rencontrés par les États. C'est-à-dire que vous regardez les sociétés, les dernières annonces sur les résultats du trimestre dernier, notamment pour les sociétés américaines qui l'ont annoncé dans le domaine informatique, vous avez vu les annonces d'IBM, vous avez eu les annonces d'SAP ici en Europe, qui sur l'année dernière quelque part ont annoncé d'excellents résultats. Sur l'année 2012, il y a une crispation, notamment sur la première partie de l'année, parce que nous avons peur que nos clients potentiels puissent aujourd'hui quelque part se comporter un peu comme nous. La crispation quelque part va aujourd'hui potentiellement diminuer la prise de risque et réduire les investissements sur la première partie avant d'avoir une meilleure visibilité. Après 2012, c'est une année relativement exceptionnelle parce qu'on a une situation économique et endettement des États qui est relativement important. Et c'est une année aussi d'élections. Donc vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous avez, et c'est vraiment une année d'attentisme. Et c'est là, on ne sait vraiment pas comment quelque part la situation va évoluer. Et je reviens un peu sur ce que vous avez dit précédemment sur la perte du triple A. Je suis d'accord avec vous. C'est potentiellement une manière quelque part de réveiller et de prendre des décisions relativement courageuses et structurelles importantes pour pouvoir améliorer quelque part l'économie dans les prochaines années.